Barbie, présenté par Eve Barta.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'Amphi, l'émission étudiante de Radio Alpa. Ce soir, je vous fais part de mon échange avec Thomas Poli, dont l'album est sorti le 22 mai dernier, Musique pour le monde invisible. Et puis, je vous fais également part de mon échange avec le batteur du groupe Angevin Fragile, Félix Souris. D'abord, on écoute Cheers de Fish Talk.
We'll be right back.
Aujourd'hui, je suis donc avec Thomas Poli. Thomas, tu as sorti un nouvel album, Musique pour le monde invisible. C'était le 22 mai dernier, si je dis pas de bêtises. Salut Thomas.
Salut Eve.
Déjà, pour commencer, tu penses que tu pourrais un peu te présenter, s'il te plaît ?
Ouais, alors du coup, je suis musicien depuis une vingtaine d'années. J'ai joué dans un groupe qui s'appelait Montgomery. Je suis basé à Rennes. Et je suis musicien guitariste et je fais aussi des synthétiseurs, pas mal de synthétiseurs analogiques. Et j'ai aussi un studio. Je suis aussi ingénieur du son et réalisateur de disques et j'ai un studio à Rennes et un petit label qui s'appelle Impersonal Freedom. Et voilà, avec tout ça, je produis un peu ma musique et la musique d'autres aussi.
J'ai voulu chercher combien d'albums tu avais sorti avant cet album, donc Musique pour le monde invisible. Sur Wikipédia, la liste, elle était interminable. Tu as travaillé avec tellement d'artistes en tant que musicien et qu'ingénieur du son, comme tu le disais avant. Quand est-ce que tu as commencé à travailler sur des projets solo ?
Ça a commencé en 2017. En fait, j'ai composé une musique qui m'avait été inspiré par un travail en cours d'un artiste qui s'appelle Flavien Perry, qui est un artiste plasticien qui fait de l'art contemporain. Et il était en train de travailler sur une tapisserie qui représentait le sol de la planète Mars. C'était une tapisserie à regarder en 3D. J'avais trouvé ça assez inspirant. Et moi, j'avais plongé dans l'univers du synthé modulaire à cette époque-là, enfin quelques années avant. En 2015, j'ai acheté mon premier système Verbos Electronics. Et en fait, j'ai hérité d'un magnéto à bande cette année-là, en 2017, que Dominique A m'a donné. C'était un magnéto quart de pouce. Et en fait, pour tester ce magnéto, j'ai enregistré des pièces sonores avec mon synthé modulaire. Et ces pièces m'étaient inspirées par le travail en cours de Flavien. Et pour lui faire un cadeau, je lui ai envoyé ça. J'ai numérisé la bande, j'ai gravé un CD et je lui ai envoyé ça par la poste. Juste pour lui dire, voilà ce que ça m'a inspiré, tu pourrais écouter ça et tout ça. J'avais fait un croquis d'une pochette en papier craft de mes souvenirs de son travail en cours, et c'est tout. Et en fait, peu de temps après, il a dit, mais c'est génial, il faut absolument que ça soit diffusé pendant l'expo, j'adore, ça colle trop et tout ça. Et en fait, la musique a été diffusée pendant une de ces expos où le tapis était exposé. C'était un tapis de 4 mètres de long sur 2 mètres de large que les gens regardaient avec des lunettes 3D. Il pouvait tourner autour. Et bref, petit à petit, c'est devenu un album, en fait. Je l'ai sorti en CD, parce que du coup, le format du tapis représentait très bien. Ça pouvait être une pochette idéale. Et c'est devenu mon premier album sous mon nom. Voilà. Je savais pas trop quelle musique je voulais faire. J'ai travaillé avec plein de gens différents, dans des styles assez larges aussi, quoi. Et c'était toujours une petite pression de savoir sous quelle forme j'allais faire ma musique. Et voilà, en fait, finalement, c'est le hasard qui a décidé pour moi, le destin.
Bah du coup, ma prochaine question tombe à l'eau parce que je voulais te demander si c'était la première fois que tu faisais une exposition, enfin de la musique pour une exposition.
Non, ouais.
Et que tu travaillais avec Flavien Terry, mais de ce fait, non, c'est pas la première fois.
C'est pas la première fois, ouais, c'est même la troisième. Il y a eu cette première expo là qui était du coup au château de Nantes en 2018 sur le tapis stéréoscopique et l'album Candor Casma, donc mon premier solo. Et il y a 3 ans, on a fait une autre expo qui s'appelait Le Rayon Extraordinaire, qui est aussi un album que j'ai fait, et la musique était inspirée de cette expo. Et c'est effectivement le nouvel album Le Monde Invisible, Musique pour le Monde Invisible, et la musique en partie de l'expo Le Monde Invisible qui a lieu au Champ Libre à Rennes.
d'écouter un extrait de Gone, issu du nouvel album de Thomas Pauly, Musique pour le monde invisible. Concrètement, Thomas, de quoi il parle l'album? Et puis, de quoi parle l'expo aussi? Parce que les deux sont très liés, finalement.
Du coup, le monde invisible, eux, ils ont voulu révéler des choses qui sont en fait en face de nous, mais qu'on ne voit pas vraiment sans un processus ou sans une sorte de moyen de rentrer dans une matière, en fait. Souvent, on a des choses qui nous entourent, en fait, où il se passe ces phénomènes, en fait, d'illusions d'optique, en fait, qui fait qu'on ne voit pas certaines choses, mais finalement, en zoomant, donc ils ont pas mal zoomé, en fait, sur cette expo-là. Ils ont utilisé des microscopes électroniques très, très précis. Ils ont fait aussi des sortes de scans, un peu comme des scanners IRM, de certaines matières, en fait, pour révéler des choses qui sont cachées à l'intérieur d'objets. Et il y a aussi pas mal de 3D anaglyphes, donc les lunettes rouges et bleues cyan, une façon un peu pile gadget, quoi, un peu old school. Et du coup, il y a une sorte de perte de repères aussi au milieu des œuvres. Une autre dimension apparaît souvent dans l'expo. Donc voilà, c'était pour eux une façon de révéler l'invisible, l'extrêmement petit, mais également aussi l'extrêmement vaste, l'extrêmement grand, le cosmos, quoi. Il y a aussi des pièces inspirées vraiment de, comme il y a une pièce sur un trou noir par exemple, ou voilà, l'univers, quoi.
Comment tu composes en fait dans le cadre d'une bande sonore, parce que l'approche elle est forcément différente que lorsqu'on compose un album beaucoup plus classique, quoi. Comment ça se passe? Est-ce que tu as les œuvres en tête, j'imagine?
Ouais, en partie. J'allais régulièrement les voir, en fait. J'allais régulièrement dans leur atelier, où ils avaient des ateliers à des endroits différents. Ça dépendait des gens qui les suivaient. Et on allait discuter, ils me montraient leur travail en cours, ça m'inspirait, et je retournais à mon studio après, et je composais à partir de ça. Et après, la musique en soi, le processus de figer la musique, ça a été vraiment très solitaire. Ils n'étaient pas là, j'étais vraiment tout seul, et c'était un peu que mes souvenirs, que ce que j'avais un peu dans la tête, que j'ai essayé de figer sur la bande, quoi, pour rendre hommage à ces œuvres.
Juste d'écouter Where Are You Hiding, extrait de cet album Le Monde Invisible. Cet album, il est purement analogique, c'est-à-dire qu'aucun ordinateur n'a été impliqué dans la création, donc de A à Z. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste et comment ça fonctionne?
Et bien, du coup, l'année dernière, j'ai encore une fois récupéré un autre magnéto à bande, cette fois-ci plus complexe. C'est un magnéto 24 pistes. Un Studer A827, et en fait j'ai pu commencer à enregistrer différents projets qui venaient au studio sur la bande. Bon, j'avais déjà utilisé ça avant dans d'autres studios, notamment Studio Black Box, et j'avais déjà fait des albums en utilisant la bande magnétique. Après là, le processus a été de mixer également aussi sur une autre bande et de graver le vinyle à partir de cette bande. Donc il y a zéro numérisation sur toute la chaîne. Et ça, par contre, de tout, voilà, de l'ensemble des disques que j'ai pu faire, réaliser ou participer, j'avais jamais fait ça. Et j'avais jamais eu un disque entièrement analogue de A à Z. Et c'était un petit challenge aussi de se dire que dans l'invisible, on peut, enfin, l'invisible est aussi là, en fait. On peut faire entendre un peu tous ces bruissements, toutes ces imperfections aussi, et qui sont finalement plus que des imperfections. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement humain, d'extrêmement dur à reproduire, d'extrêmement sensible et beaucoup plus compliqué à refaire, par exemple avec un programme ou avec un ordi ou avec une AI même. Donc ça, je pense que c'était aussi un vecteur de nouveauté et je suis hyper content de faire entendre ça en fait. Tous les instruments sont joués, tous les instruments ont existé, ont une empreinte physique. Et du coup, ça se retrouve sur le vinyle.
Tu as mixé l'album sur place au Champ Libre. Pourquoi pas plutôt dans ton studio tout seul ?
Du coup, le mix que j'ai fait au Champ Libre, c'est le mix pour l'expo. Oui. C'est pas le mix de l'album. C'est deux choses différentes. Oui, le mix de l'album, je l'ai fait au studio Black Box, dans le monde analogique. Le mix pour l'expo, je l'ai fait sur place là-bas pour prendre une place différente que juste diffuser un disque en fait lors d'une expo. Je voulais vraiment personnaliser aussi la bande son de l'expo. Elle est notamment plus longue que celle de l'album parce qu'il y a des titres en plus et il y a aussi des instruments en moins en fait. J'ai enlevé un peu des percussions, j'ai enlevé des voix aussi parce que je chante sur l'album. C'est donc deux choses différentes et je trouvais ça bien d'aller sur place pour me balader entre les œuvres, pour mixer vraiment pour l'expo, quoi.
Est-ce que tu comptes à l'avenir défendre cet album sur scène, Nico ?
Ouais, j'adorerais. J'aimerais vraiment entamer une petite série de dates en solo, par exemple, pour faire quelques concerts dans des petits endroits, peut-être chez des disquaires ou avec des associations qui pourraient me faire jouer. Ça, j'aimerais beaucoup faire ça pour promouvoir un peu le disque et puis le distribuer. Et peut-être après aussi, il est peut-être question de monter un trio pour pouvoir jouer cette musique-là.
Écoute Thomas, merci à toi. L'exposition Le Monde Invisible, elle est donc au Champ Libre à Rennes. C'est jusqu'au 11 octobre 2026. Et l'album Musique pour Le Monde Invisible, il est donc disponible sur toutes les plateformes, si je dis pas de bêtises, et aussi en vinyle sur le Bandcamp d'Impersonal Freedom. Merci beaucoup Thomas.
Merci Eve et merci beaucoup à vous. À bientôt.
could lose her.
Vous êtes toujours sur l'amphi, sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. On vient d'écouter A Funny Feeling de Common Insight.
Comme je l'ai dit dans l'introduction, aujourd'hui je suis avec Félix Souris, batteur du groupe Angevin Fragile. Bonsoir Félix.
Salut.
Déjà pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Fragile, est-ce que tu peux un peu vous présenter ?
Fragile, donc nous c'est un groupe qui existe depuis bientôt 5 ans maintenant. Puis on a fait quasiment une petite centaine de concerts en France et en Europe et même au Canada récemment. Et puis on est 5 sur scène, on aime bien jouer fort et crier un petit peu de temps en temps.
Et comment tu définirais votre style de musique du coup ?
Alors nous, on se catégorise plutôt comme du hardcore, mais du hardcore assez gentil, un peu plus mainstream en fait. Du hardcore passe-partout si tu veux. On a été grandement influencé par des groupes comme Turnstile ou okay. Ivis qui démocratisent vachement le terme hardcore et du coup le poppies un petit peu de manière générale. Et donc nous, ce qu'on aime en fait, c'est crier fort et puis donner un peu d'énergie sur des morceaux qui musicalement sont un petit peu plus catégorisés comme étant pop, rock, quoi.
C'est quoi vos inspirations à tous, enfin même si vous avez forcément des univers différents puisque vous êtes 5. T'as parlé de Turnstile par exemple, c'est des groupes qui vous inspirent beaucoup.
Ouais, bien sûr, évidemment, on est très influencé par la scène. Rock, hardcore, surtout de ce qui vient d'Angleterre et d'Amérique, on va dire, essentiellement. Mais après, notre force aussi, c'est que on s'inspire d'énormément de choses différentes, d'énormément de styles musicaux, tu vois, de l'électro, de la folk, du punk, des choses comme ça. Et puis aussi, surtout, tu vois, de l'univers visuel autour, par exemple, des séries, des films, de littérature aussi. On s'arrête pas qu'à la musique, on essaie d'aller plus loin que ça et plus loin que se cantonner à un style et aller chercher plutôt dans des styles différents, quoi. Tu vois, par exemple, moi, en ce moment, j'écoute énormément de dub et de reggae. C'est mon truc. Voilà.
Et vous avez une formation qui est assez classique des groupes anglais, en fait. Je pense à Heavy Lungs ou Knives, même, qui sont 5 avec un frontman et les musiciens après. Enfin, je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été réfléchi.
Bah, en fait, ça s'est présenté à nous au moment de la création du groupe. on avait déjà en fait suffisamment de musiciens en tout cas sur scène pour que Baptiste le chanteur n'ait pas à reprendre un instrument par-dessus, et c'est très bien parce que du coup ça le libère aussi un peu plus, et puis il est du coup plus libre de ses gestes, de tout ça sur scène. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, par exemple, un groupe comme Ivis aussi, qui est un groupe anglais de, je me demande s'ils sont pas de Liverpool ou de Londres, je sais plus. Bah voilà, c'est, il y a un chanteur sur scène et puis après le groupe joue derrière. Nous, on aime avoir une la posture du chanteur lead sur scène comme ça. C'est des choses qui nous plaisent, ouais, bien sûr.
Tu disais que le groupe avait 5 ans à peu près. Est-ce que tu peux parler un peu de la naissance du groupe? Je sais que vous étiez dans d'autres groupes avant, genre Feu, White Fox ou Lane, par exemple. D'où vient l'envie de former un groupe tous les 5?
Alors oui, effectivement, on avait des groupes respectifs avant ça, à l'époque. Tous ces groupes-là se sont plus ou moins, on va dire, arrêtés au moment du Covid, pour certains groupes un petit peu plus tard. Mais en gros, dans l'idée, voilà, ça s'arrête après le Covid. Et en fait, c'est ça, c'est vraiment le Covid qui nous a fait nous retrouver. On avait envie de sortir un peu de notre routine chez nous, voilà, et puis de se retrouver, en fait, vraiment à faire des conneries. Et en fait, petit à petit, à force de jouer dans une cave très fort, on s'est dit, bah tiens, est-ce qu'on n'essaiera pas de faire des concerts? Puis très vite, en fait, on s'est mis à faire des concerts quand tout est reparti.
Ouais.
Et en fait, on a souvent senti un soutien vraiment important de la part de la scène angevine auprès de nous. Et ça nous a vraiment permis de pouvoir faire de plus en plus de concerts, de plus en plus rapidement. Et puis aujourd'hui, on est très très fiers et très reconnaissants de cette scène angevine qui nous a vraiment aidé à nous lancer, quoi.
Et le nom Fragile, ça vient d'où? Enfin, c'est assez drôle parce que la catégorie de musique que vous faites, c'est assez l'opposé. Tu disais que vous faisiez du hardcore, mais du coup, Fragile, c'est tout doux, tout mignon.
Ouais, mais c'est le but.
Ok, c'est recherché.
Non, en fait, sans que ce soit un but recherché, etc. En fait, ça nous correspondait bien au moment, en tout cas, de la création du groupe. On était tous dans une fragilité émotionnelle qui était celle de la période du Covid, en fait, tu vois. Je pense qu'on s'est tous retrouvés à ce moment-là et ça nous a tous énormément aidés d'avoir ce groupe là et c'était notre manière aussi d'exprimer un petit peu nos fragilités et notre sensibilité, quoi. Voilà, quand le nom est sorti, on s'est dit bah oui, ça marche très bien comme ça, et c'est super, partons là-dessus. Voilà, et puis c'était aussi une idée de casser un petit peu tous les stéréotypes liés au hardcore et au côté un peu qu'on le veuille ou non masculin du punk et du hardcore.
Carrément.
Voilà, ça nous plaît. On a eu quelques fois des petites réflexions, mais c'est un nom qu'on assume et qu'on aime, quoi, c'est sûr.
Vous avez sorti votre premier album en novembre 2025. Il s'appelle Big Smile. Cet album, il parle justement de cette fragilité émotionnelle, par exemple.
Ouais, complètement. Et puis en fait, si tu veux, Big Smile, c'est un petit peu, enfin, sans rire, si tu veux, mais c'est juste allez, on a nos failles, on a nos défauts, on a notre sensibilité, voilà, mais en fait à la fin on y va, on sourit, on se relève. Et tu vois, par exemple, on a une chanson qui s'appelle Celebrate, et donc elle va vraiment dans ce sens là de chaque moment que tu passes où en fait tu te sens vraiment nul, où il t'arrive des merdes, etc., bah en fait allez, on y va, on se relève, et puis on est tous dans le même bateau, allons-y. Et donc Big Smile, ce nom d'album, ça va un petit peu dans ce sens là aussi de allez, à la fin ce qui compte c'est juste se relever, sourire un petit peu à ce qui se passe, et puis côté un peu thérapeutique, quoi, tu vois.
Et je trouve, dans le titre, dans la prononciation, il y a un truc hyper souriant, ça donne envie de sourire. Enfin, je sais pas si c'est si vous l'avez.
Ouais, on cherchait aussi un nom d'album avec une phrase qui pouvait être retenue. En anglais, ils disent statement, quoi. C'est un truc qui se retient. Tu vois, par exemple, je compare l'incomparable, évidemment, mais Nirvana, par exemple, sort Nevermind, quoi. Et donc, tu vois, Nevermind, tu dis, bah voilà, Nevermind, c'est l'album de Nirvana. Et donc, il y a un côté très bloc qui se. Enfin, un nom d'album, c'est hyper important. Et donc là, sur Big Smile, pour nous, ça marchait, quoi. Tu vois, Big Smile, il y a un truc un petit peu différent, quoi. Un peu à notre image, quoi. On est un petit peu différent, et puis qui nous correspondait bien, quoi. Voilà.
T'as parlé juste avant du titre Celebrate. Vous avez collaboré avec AD, qui était dans Thérapie Taxi avant. Comment la rencontre s'est faite? Parce que c'est quand même la méga classe.
La rencontre s'est faite. Comment elle s'est faite? En gros, on a sorti un premier EP en 2023. On était, je pense, chez nous, tranquille, à rien faire. Et à un moment donné, on reçoit une notif. AD a mentionné votre nom dans une story. Et en fait, on s'est dit, c'est quoi cette histoire? Et on regarde, et en fait, AD avait visiblement découvert le groupe via des playlists Spotify ou quoi. Et donc, elle avait partagé ça dans ses stories. Et puis nous, on n'était pas trop au courant de ce qui se passait pour elle, tu vois, depuis la fin de Thérapie Taxi. On savait qu'elle avait une carrière un peu solo, mais tu vois, sans vraiment trop chercher. Et du coup, on a commencé à s'intéresser à tout ça, et elle a partagé ça, on lui a répondu. Puis quelques mois après, elle a repartagé ça. Et en fait, suite à ça, on a quand même discuté un petit peu par message. Elle nous a félicité pour le l'EP, ce qu'elle trouvait super. Donc ça nous a fait plaisir. Et en fait, au moment de composer Celebrate, l'idée venait de Baptiste de dire, en fait, je pense que le refrain, il mériterait une voix féminine mm-hmm. dessus pour nuancer vraiment toute la palette un peu vocale que ça peut donner, tu vois. Et on a réfléchi à plein d'artistes angevines. Ça aurait été un peu la facilité pour nous, tu vois, de trouver quelqu'un dont on est copain, parce qu'on a énormément d'amis qui sont très talentueuses. Mais il y a un moment donné, je crois que c'est Baptiste d'ailleurs qui a dit, on n'a qu'à proposer à Adé, elle adore le morceau. Et puis on lui fait écouter, de toute façon ça la brancherait tout. Alors nous on pensait que ce serait complètement impossible, et en fait il s'avère qu'on s'est retrouvé à discuter avec quelqu'un qui était vraiment adorable avec nous et hyper gentil, et en fait elle a tout de suite accepté de chanter, mais genre d'une simplicité déconcertante, quoi. Okay. Et en fait on s'est retrouvé à Paris, on a joué il y a un an à la Mécanique Ondulatoire à Paris, et elle était là au concert, du coup on a pu discuter un petit peu. Elle nous a dit, mais moi je suis carrément chaud, etc. Et puis deux mois après, en février, on enregistrait l'album, et elle était au local de répète avec nous pour faire ses prises de voix. On était genre 6 ou 7 dans la pièce, que des mecs, machin. On était tous hyper, et en fait on était tous hyper impressionnés, quoi. Parce qu'elle arrive, il y a la classe, elle chante hyper bien, elle a l'habitude, donc en fait elle sait ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas, elle sait ce qui marche, ce qui marche pas, et c'est hyper agréable ça a été hyper agréable de travailler avec elle. Et ensuite elle est dans le clip. Donc c'est pareil, en fait elle a dit, les gars, je dis que notre tu as proposé de venir pour apparaître dans le clip, et donc elle était carrément à fond. Et en fait c'est marrant parce que du coup elle apparaît dans le clip, mais de manière un peu subtile et pas du tout obvious, comme on n'avait pas envie que ce soit, tu vois. Et du coup c'est très chouette, enfin ça nous plaît. Et là en décembre dernier à Paris, à la Boule Noire, elle est venue chanter carrément le morceau avec nous, et c'était trop cool, ouais. Et vraiment vraiment une fille adorable, et très étonnant que ce projet l'intéresse, donc on est reconnaissant là aussi, ouais.
J'avais envie de parler un petit peu de la pochette. Comme on est à la radio, je vais juste la décrire. On voit les jambes de quelqu'un dans l'encadrement d'une porte, et au premier plan, j'imagine que c'est de la pelouse, mais au début je pensais que c'était de la moquette, du coup je suis pas sûre.
Ouais, c'est un peu de la moquette.
Ouais, ok. Mais du coup, tu pourrais un peu l'expliquer? Je sais qu'on l'a, enfin, on voit la réalisation, je crois, dans le clip de A Reason Why.
T'as ouvert les yeux.
J'ai tout regardé. Est-ce que tu peux un peu expliquer qui l'a fait et pourquoi cette pochette, qu'est-ce qu'elle signifie?
À partir du début, au départ, on voulait, la pochette d'un album pour un groupe, c'est hyper compliqué à choisir. Mais il y a un truc qui nous a rejoint tous ensemble avec les gars, c'est le travail que faisait Héloïse Rabaté, là, qui est une amie à nous, notamment de JB, le guitariste, qui est une amie de très longue date. Et on adorait son travail de peinture, donc en fait elle s'appelle Lille Bâtard sur Instagram et sur les réseaux, etc. Et c'est quelqu'un d'adorable qui fait son truc dans son coin, et qui a une vraie touche à elle, très perso. Typiquement ça ressemble un petit peu à ce que peut faire Edward Hopper par exemple, et il y a une vibe très Twin Peaks.
Ouais, okay.
un jour je lui ai dit mot pour mot, je lui ai dit prends ça pour un compliment, mais en fait ces peintures elles ont une odeur de clope froide. Pour moi ça me fait vraiment sentir ça, tu vois, l'ambiance un peu motel américain, etc.
Ouais,
donc on aimait beaucoup son travail, et en fait on lui a laissé carte blanche. Elle nous a fait plusieurs essais de pochettes, et puis après on a décidé un peu ce qu'on préférait dans la mise en forme un petit peu de l'image. Et ensuite c'est elle qui a vraiment décidé des couleurs et de la réalisation, etc. Et effectivement, et ça me fait plaisir que tu le remarques, effectivement elle apparaît dans le clip de Reason Why, où en fait c'était une volonté pour nous de la faire apparaître un peu en anglais il dit un easter egg,
ouais,
quoi, tu vois, une petite surprise. Et surtout que le clip est paru avant la sortie de la pochette, donc nous on trouvait ça plutôt chouette de faire ça comme ça. Mais voilà, très content de la pochette, très content d'avoir travaillé avec Héloïse. Pour nous, ça rentre dans aussi une démarche de travailler avec des artistes locaux qu'on apprécie, qu'on connaît bien, plutôt que d'aller faire ça par des gens qui vont demander beaucoup d'argent et qui ne connaissent pas l'identité du projet, etc. Nous, c'est notre manière à nous de soutenir les artistes locaux de notre ville et de notre région, même pour agrandir le truc. Donc, on est très content de cette pochette. Ouais.
Elle avait les morceaux en tête en la peignant ?
Oui, bien sûr. Okay. Bah, du coup, on lui a filé tous les morceaux en avance. Et puis, c'est quelqu'un qui nous a vu plusieurs fois en concert, c'est quelqu'un qui nous connaît très personnellement, qui connaît notre univers. Nous, on a fait une petite sélection aussi des peintures qu'on appréciait chez elle. Et suite à ça, elle avait quand même tout un package pour pouvoir faire une illustration qui soit un petit peu en rapport avec les morceaux. Voilà, moi, je vois ce côté très... très comment on appelle, il y a un terme portugais qui brésilien qui dit saudade.
Oui, okay.
Et c'est un mélange de mélancolie, d'espoir et un petit peu de tristesse, mais en même temps d'espoir. Et je trouve que cette pochette elle marche bien dans ce sens-là. Et en plus, tu vois, il y a des morceaux comme Reason Why où justement je sens, enfin on sent un petit peu avec les gars aussi cette vibe un peu saudade. Donc c'est très mélancolique, tu vois, d'un temps passé, quoi, un truc, voilà, ouais, c'est ça, mélancolique, quoi, voilà.
Vous avez sorti cet album chez Le Cep Records, un label parisien, si je dis pas de bêtises.
Ouais.
On y retrouve des groupes comme Rest Up, Angevin aussi, avec qui vous avez partagé une release party Angevin. Comment vous en êtes venu à travailler avec Le Cep? C'était assez naturel de travailler avec eux?
Oui, carrément, carrément. En fait, notre premier EP est sorti chez 19 Something, qui est un label français, etc. aussi. Et puis, on avait la facilité que le patron du label, c'était mon oncle, Eric. Donc, c'était super qu'il soit là pour notre premier EP. Il nous a beaucoup, beaucoup aidé. Et puis, tu vois, on en a vendu un petit peu, donc on est content. Et après, au moment de l'album, c'est rentré quand même dans une volonté de passer un step, en fait, un peu plus gros. Et le Step Record avait quand même une puissance médiatique, on va dire, un petit peu plus importante que 19 Something. Et nous, en fait, on a tout bonnement démarché des labels à droite à gauche. Voilà, il y en a qui étaient intéressés, d'autres non. Après une petite entrevue avec Anton, le patron du CEP, on s'est dit allons-y avec lui, et la collaboration marche bien. Voilà, on est content, on a vendu tout un premier pressage de vinyle, et là on en a recommandé un. Puis au final, ce qui compte, c'est l'objet, et nous, l'objet du vinyle, même du CD, c'est deux objets qui sont précieux à nos yeux, et qui, là, on est content de l'objet. On trouve que c'est un bel objet, et du coup c'est aussi grâce au label. Ouais.
Et cette release au Shabada, ça avait l'air super, enfin j'ai vu plein de photos de Rest Up, c'était bien.
Ouais, c'était génial. Franchement, c'était génial. En fait, nous, si tu veux, dès le départ du projet Fragile, on voulait tout de suite éviter de trop jouer à Angers.
Bah, bien sûr.
Parce que, en fait, dès le départ, nous, ce qu'on voulait, c'était aller jouer ailleurs, quoi. Se balader, partir en concert, découvrir, rencontrer de nouvelles personnes. Donc, en fait, dès le début, on a fait le choix quand même de pas trop jouer à Angers aussi. Pour que du coup tu crées un petit peu la rareté.
Carrément.
Et que en fait quand tu reviens, les gens sont là. Et donc avant de jouer au Shabada pour la release, on avait joué la dernière fois aux Lévitations. Aux Lévitations, et puis on avait joué pour la fermeture du garage, du bar. Garage. C'était quasi un an avant le concert, tu vois, au moins 9 mois avant. Et donc tu vois, entre temps, on sort l'album, etc. Enfin, on prévoit de sortir l'album. Et on a eu une chance déjà, c'était que le soir du concert correspondait à la journée de la sortie de l'album. Donc ça, c'est vraiment une chance, parce que pour un groupe, se caler pile poil entre la salle de ta ville et la sortie de ton album, c'est super. Et on était franchement très surpris du nombre de personnes et du nombre de résas qu'il y a eu au final, puisque tu vois, nous on s'attendait à faire un petit club, donc le club c'est 300.
Bah ouais.
Et en fait, c'est parti très vite, et au final on a eu, je crois que sans dire de bêtises, on a dû arriver à 570, donc quasi 600 personnes, donc dans la grande salle, donc devant une salle avec des gens partout, enfin c'est hyper impressionnant, quoi. Et moi, à titre perso, émotionnellement, c'était très fort, parce que bah voilà, t'as ta famille devant toi, t'as tes amis, tout le monde était à fond, et puis les Rest Up, ils étaient tous à fond aussi. Il y a eu du monde direct pour Rest Up aussi, parce que ils ont sorti leur album, c'était leur release aussi à eux, tu vois.
Bah oui.
Et donc il y avait eu du monde dès le concert de Rest Up, donc ça c'était super aussi que les gens viennent aussi directement pour eux. Donc franchement, c'était une belle soirée. Il y a eu un article après dans le Courrier de l'Ouest, je crois, dans Ouest France, derrière, qui disait, bah voilà, c'est peut-être une soirée qui a marqué un peu le renouveau du rock aussi à Angers. Donc, c'est des compliments dont on est fier et qu'on prend avec grand plaisir.
On parle d'Angers, t'en as parlé un peu au début aussi. Est-ce que t'as l'impression que c'est un peu un vivier de cette scène rock? Enfin, je pense à White Fox avant, il y a quelques années, ils ont fait pas mal de choses, notamment ils ont collaboré avec les Stuff Foxes, que je passe souvent dans l'émission. Mais je pense aussi à Rest Up et à vous. Est-ce que t'as aussi ce ressenti?
Ouais, bien sûr. C'est marrant, on a fait une petite interview aussi avec un gars en visio, et il me posait cette question de vivier, de scène angevine, etc. En fait, il faut savoir, c'est que depuis les années 80-90, cette scène alternative, en fait, existe à Angers, avec des groupes comme les Tugs à l'époque, comme Zenzile aussi, qui joue toujours, mais tu vois, des trucs un petit peu moins connus comme les Dirty Ends, par exemple, ou même carrément plus connus comme Lojo, par exemple. Lojo, c'est des angevins, et ça tourne dans le monde entier. On a eu après toute une vague dans les années 2000 de groupes de rock et de hardcore comme Daria, comme Tiny Voices, ex Wong for Peace aussi, qui faisait un hardcore un petit peu plus énervé, mais qui tournait énormément dans le monde entier. Et en fait, là aujourd'hui, maintenant, on a, sans avoir une scène rock, en fait, on a vraiment une scène musicale qui est hyper hyper impressionnante, que tu parles de rock, mais que tu parles aussi de rap. Alors, moi, je m'y connais un petit peu moins, mais tu parles de rap. Mais quand tu vois, par exemple, Tilassine, qui est angevin, Tilassine, il joue dans le monde entier. Donc là, c'est plus musique électronique. On parle de CJBS aussi, qui est l'artiste qui va péter, c'est sûr, là, avec, qui a eu la chance de faire The Voice, qui va faire l'Olympia, etc., machin là. Donc en fait, on parle de Rest Up, évidemment. Mm. Nous, on arrive là-dedans aussi. Et en fait, c'est un passage de bâton continuel entre les générations passées qui vont te pousser à créer des choses parce que t'as le poids musical qui te drive, et les jeunes groupes comme nous qui avons envie d'aller voyager le plus possible pour que après aussi des nouveaux groupes puissent débarquer et dire, ah putain, ah bah c'est génial, Fragile, ils ont fait ce style-là, et en fait maintenant ils tournent partout, et on est trop content de pouvoir vivre dans la même ville qu'eux. Et puis nous, on peut aussi avoir cette posture-là, et il faut qu'on l'ait de transmission. C'est hyper important. Et ce truc, cette position-là, on l'avait pas avant l'album, par exemple. Tu vois, avant la sortie de l'album, on avait sorti notre petite EP, et puis on était un petit groupe qui suivait, tu vois, à l'époque c'était Limboy, il y a eu Bermude, il y a des groupes qui étaient plus éphémères, mais qui ont participé aussi à cette effervescence de rock. Tu vois, je pense aussi à la scène psyché avec le Lévitation. C'est hyper présent à Angers. Tu vois, avec la sortie de cet album-là, nous, ça nous a un peu pris de court. Où en fait, on a eu tout de suite énormément de propositions. On est parti au Canada, on est parti en Allemagne, Belgique, Espagne, Portugal et tout. Et donc, en fait, mon statut, il change un petit peu. Et moi, sans faire l'ancien, le gars un peu de sa personne, mais j'ai envie aussi de pouvoir inspirer des groupes, tu vois, qui viennent nous voir en concert et qui disent, ah putain, mais c'est cool, ils ont à peine 30 ans et puis ils tournent. Et en fait, c'est possible de faire un groupe de rock à Angers ou de faire un groupe de musique de manière générale. Et puis en fait, si tu t'y prends bien, que t'es bien entouré et que nous, on a le rôle de pousser le groupe aussi pour qu'il se développe le mieux possible, bah en fait, c'est génial, tu vois. C'est comme ça qu'une scène se fait. Et on reste toujours hyper influencé par, tu vois, Daria, par Birdinro aussi du côté de Laval, même du côté de Nantes, tu vois, il y a des groupes comme Basic Partner, etc., qui ont notre âge, mais qui sont hyper influents, qui nous influencent beaucoup. Voilà, c'est comme ça que se crée une scène, c'est comme ça que se maintient une scène aussi, et savoir d'où tu viens, et puis essayer de faire perdurer le truc par une entente constante, et puis un soutien constant au groupe qui arrive petit à petit aussi, quoi. Et ça commence par aller voir des concerts.
Mais il y a une idée de rendre l'appareil, quoi.
Ouais, bien sûr. Et puis nous, si tu veux, on prend jamais rien pour acquis non plus. C'est pas parce qu'on a fait une cinquantaine de dates en un an que ça va durer toute la vie et qu'on laissera un héritage derrière, quoi. C'est pas une question d'héritage, quoi. C'est juste essayer de faire perdurer un peu ce truc-là. Et puis, si t'arrives des bonnes choses, c'est parce que t'es entouré de gens qui t'apportent des bonnes choses. Et puis, sans cette scène, sans cette effervescence-là locale, alors, en fait, nous, on serait rien. On serait rien du tout, parce que c'est des gens qui nous ont tellement apporté, tellement aidé. Voilà.
T'as parlé du Québec, vous êtes allé là-bas. Ça fait pas flipper de partir si loin et de se dire merde, on est hyper loin de chez nous. Ça se trouve, les gens, ils vont pas aimer.
Non, au contraire, c'est hyper excitant. Okay. C'est hyper excitant. Comme je te dis, nous, on a tout de suite voulu partir de la maison. On s'est marré hier parce qu'on parlait de quand on a joué à Brest en rentrant du Canada. En fait, on s'est dit, dans notre corps, on a ressenti que c'était plus long d'aller à Brest d'Angers que d'aller au Canada, tu vois. mais blague à part, non, franchement, c'est hyper excitant. Moi, collectivement, c'était un rêve, si tu veux. Cette matérialisation de prendre l'avion avec ton groupe, c'est quelque chose qui en fait arrive à peu de groupes au final dans leur carrière. Et du coup, le fait de, c'est con, hein, mais de matérialiser ça en mode je prends l'avion avec mon groupe, je m'occupe de des déclarants en douane, je m'occupe des visas, je m'occupe sur place de logement, camion, backline, etc. C'est une régie de tournée qui est complètement différente et qui est hyper excitante. Tu vois, c'est trop bien de se dire que tu prends l'avion, que tu vas sur le continent américain, qui est quand même le continent du rock, générale, que t'es quasiment sûr que tu vas jouer devant du monde, c'est évident, parce que nous, notre tournée, elle était agencée pour qu'on puisse jouer devant un peu de monde quand même, donc tant mieux. Et en fait, au final, on a passé une semaine, 5 dates en une semaine, donc c'était assez rapide et intense, mais franchement, on s'est éclaté, et puis c'est dans les meilleurs souvenirs du groupe. Être loin de chez soi, c'est pas un problème.
Et du coup, après la sortie de Big Big Smile en novembre dernier, une longue série de dates, qu'est-ce que vous projetez pour la suite ?
On n'a pas vraiment prévu de s'arrêter.
Non, j'imagine.
On va continuer les concerts. Voilà, cet été, on va avoir quelques festivals. C'est vraiment chouette. Ça nous rend vraiment heureux de pouvoir faire des festivals d'été. C'est cool. Alors, c'est un peu étonnant parce que tu vois, on partage l'affiche avec des groupes et des artistes un peu étonnants. Tu vois, genre, on va jouer avec le même jour que Oxmo Puccino, par exemple, au Pont du Rock. On va jouer le même jour que Moby ou Paul Kalkbrenner à Château-Gontier au VNB. Donc, c'est assez étonnant et c'est assez marrant pour nous de faire ça toute la saison d'été, là. Et puis, après, à la rentrée, on a signé une collab avec Bullet Seed, qui est un tourneur ibérique. Donc, on risque de partir très probablement en Espagne, Portugal. Et puis, on va pas s'arrêter. On compose des nouveaux morceaux petit à petit. Il faut faire vivre le truc, quoi. Il faut entretenir et puis essayer de donner le meilleur de soi à chaque fois dans les nouvelles compositions, dans les nouveaux projets. voilà, c'est important pour nous, et puis nous on aime faire ça, quoi. Donc tant que t'aimes faire ça et que tu sens que t'es avec les bonnes personnes, faut pas s'arrêter.
Merci beaucoup à toi, Félix, et puis belle continuation.
Et ben merci beaucoup.
C'est déjà la fin de cette émission. Vous pourrez la réécouter en rediffusion lundi de 9h à 10h sur les ondes de Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et sinon en podcast sur radioalpa.com ou sur votre plateforme préférée. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à lundi.